Réfléchir au financement des entreprises pour la reconstruction, la question est au cœur d'un séminaire organisé par la FEDOM, la Fédération des entreprises outre-mer. Le débat sur les protections de marché, le MEDEF souhaite que l'audit lancé par le gouvernement repose sur une méthodologie objective. Elle a adressé un courrier en ce sens à Christopher Gigès. Nouveau durcissement des relations entre la France et l'Algérie. La France rappelle son ambassadeur à Alger. Les deux pays ont expulsé chacun 12 agents consulaires. Plusieurs attaques contre des prisons en métropole. La République ne reculera pas, affirme le ministre de la Justice qui attribue ses actions aux narcotrafiquants. Et puis en sport du football, le PSG en demi-finale de Ligue des Champions. Les Parisiens sont venus à bout d'Aston Villa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal, un séminaire dédié aux enjeux du financement des entreprises en Nouvelle-Calédonie. La FEDOM, la Fédération des entreprises outre-mer, en partenariat avec le MEDEF et la CCI, tente ce matin d'apporter un éclairage sur les différentes solutions qui s'offrent aux entreprises pour se reconstruire, Léana Colombo.
Difficultés d'indemnisation, restrictions assurantielles, accès au crédit fragilisé. Les contraintes sont nombreuses pour ces chefs d'entreprise qui souhaitent redémarrer leur société sur le territoire après les émeutes 2024. Il faut donc aller vite, que cela soit au niveau du financement public et privé ou dans les démarches administratives. Car sans les entreprises, l'économie calédonienne ne pourra pas repartir, explique David Guyenne, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie.
Plus de 50% des entreprises calédoniennes aujourd'hui sont en difficulté de trésorerie. Et dans certains secteurs, que ce soit le BTP ou les entreprises individuelles, ces difficultés annoncent une fin potentielle de leur activité dans les mois qui viennent. 15% des entreprises détruites seulement aujourd'hui considèrent vouloir reconstruire. Ce qui veut dire que le financement des entreprises pour leur survie ou pour la reconstruction est un sujet crucial et urgent. Il n'y aura pas d'accord politique viable pour la Nouvelle-Calédonie sans ses entreprises, et il n'y aura pas de prospérité économique et de développement des entreprises sans accord politique.
Parmi les intervenants présents lors de ce séminaire, des entreprises bien sûr, mais aussi des représentants de la CAFAT, de l'AFD, de la présidente du MEDEF, Mimsy Délé, ou encore de la présidente de la CMA, Elisabeth Rivière. Et tous sont d'accord pour dire qu'il s'agit d'un contexte sans précédent. Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment du secteur de l'économie, évoque même l'un des plus grands défis qu'a dû relever la Nouvelle-Calédonie.
À la fois un défi de reconstruction des bâtiments, de reconstruction de l'économie calédonienne et reconstruction de la société calédonienne. Et ce séminaire, ça passe sur la question du financement et du financement privé, qui est l'oxygène justement pour cette reconstruction. Il faut simplifier les démarches administratives, il faut arrêter d'avoir un carcan administratif qui bloque l'investissement. Aujourd'hui, le chef d'entreprise, il décidera de réinvestir si on lui simplifie la vie, si on montre que les collectivités sont à ses côtés. Et en tout cas, c'est ce qu'on a voulu faire avec le guichet unique de reconstruction. Et aujourd'hui, on doit aussi mettre en place de nouveaux types de financement qui sont simples et qui sont facilement utilisables.
Et pour accompagner et soutenir les entreprises dans leur démarche de reconstruction, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de France, Alain Di Crescenzo, sera présent sur le territoire du 21 au 24 avril prochain. Rappelons qu'au lendemain des émeutes, CCI France avait mis en place un fonds exceptionnel de 50 millions de francs à destination de sa branche locale. Grâce à ce soutien, la CCI de Nouvelle-Calédonie a notamment pu mettre à disposition des entreprises, des experts et accorder une aide à l'embauche pour les entreprises accueillant des alternants en 2024.
Et puis toujours dans l'actualité économique, on reparle des protections de marché. Le MEDEF vient en effet d'adresser Lionel Sabot un courrier à Christopher Gigès.
Dans ce courrier signé par Mimsy Délé, la présidente du syndicat patronal, le MEDEF indique soutenir sans réserve l'évaluation des dispositifs de régulation de marché dans le cadre d'une réflexion globale sur le modèle économique calédonien. À ce titre, écrit Mimsy Délé, la nécessité d'un débat objectif et apaisé impose la plus parfaite indépendance du prestataire à retenir vis-à-vis de l'ensemble des acteurs économiques concernés, au risque, poursuit la présidente du MEDEF, de voir ses résultats contestés. Cette étude ne peut ainsi être menée que par un cabinet exempt de tout lien d'affaires avec les acteurs calédoniens, écrit encore Mimsy Délé. Le MEDEF qui demande aux membres du gouvernement que le périmètre de l'étude soit utilement limité à l'ensemble des acteurs privés bénéficiant de mesures de régulation de marché et indique par ailleurs que des évaluations complémentaires sur d'autres secteurs et notamment ceux de la production agricole et des monopoles publics sont nécessaires. Ils devront faire l'objet d'études distinctes. La présidente du MEDEF qui écrit pour finir que l'audit individualisé des mesures de régulation de marché existantes ne saurait se cantonner à un échantillon représentatif des produits de grande consommation ou de première nécessité et doit concerner l'ensemble des bénéficiaires de manière à définir in fine une méthode standard et objectif d'évaluation. Fin de citation.
Et le MEDEF indique dans un autre communiqué, avoir obtenu des précisions du ministère des Comptes publics sur le dossier de la réhabilitation des bâtiments détruits en mai 2024. Le syndicat patronal confirme l'éligibilité des immeubles entièrement détruits ou partiellement rendus inexploitables, à condition qu'ils fassent l'objet de travaux lourds permettant un retour à l'état neuf. La possibilité pour les propriétaires exploitants d'immeubles situés dans un secteur éligible de bénéficier des aides sans obligation de transfert de propriété. Le ministère qui a également confirmé au MEDEF une prochaine mesure inscrite au projet de loi de finances 2026 en soutien aux commerces sinistrés, mesure applicable rétroactivement à compter du 29 mars 2025. En bref, je vous rappelle que les comptes Facebook de Sonia Backès et des Républicains calédoniens ont été suspendus après une série de signalements. Selon la présidente de la province Sud, ils ont été victimes d'une attaque informatique. Cette fermeture résulte du signalement massif et coordonné visant à faire disparaître les comptes dans un contexte d'ingérence étrangère, peut-on lire dans un communiqué de Sonia Backès. Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu et voici la question du jour. La fuite du projet d'accord qui devait rester confidentiel, des attaques contre les pages Facebook de Sonia Backès et des Républicains calédoniens. Selon vous, sommes-nous face à une tentative de déstabilisation? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 83% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'il y a urgence à doter les professionnels de santé de moyens d'action. Alerte en cas d'agression. Ils sont 17% à dire qu'il n'y a pas urgence. Deux informations pratiques en bref, avec d'abord de fortes perturbations qui ont affecté à partir de 8h30 les appels mobiles sur l'ensemble du territoire. L'OPT a indiqué que ce dysfonctionnement concerne les appels entrants et sortants et qu'il est lié à des travaux en cours sur le site du PK5 qui impacte un équipement réseau essentiel. Les équipes techniques de l'OPT se sont mobilisées et ont résolu la panne un peu après 10h. Le retour à la normale se fait progressivement. Et puis en raison des fortes pluies qui ont touché le territoire ces dernières heures, la ville de Dumbéa informe de la fermeture du parc provincial de la Dumbéa jusqu'à nouvel ordre. Des courants très forts ont été relevés dans la rivière Dumbéa à la suite de ces fortes précipitations. Il est 11h38, on va marquer une première pause avant de voir le reste de l'actualité en Calédonie dans un petit instant.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Urgence, pouvoir d'achat.
Maman, on peut jouer au jeu de Pâques?
Quel jeu de Pâques, chérie?
Le jeu de Pâques à Hyper Upaïta.
Jusqu'au 21 avril, venez jouer dans votre magasin Hyper Upaïta pour gagner 10 bons d'achat d'une valeur de 5000 francs et 2 gros œufs en chocolat d'une valeur de 9600 francs.
Profitez aussi des promos de folie avec des œufs en chocolat à petit prix.
En plus, Hyper Upaïta sera exceptionnellement ouvert lundi 21 avril de 8h à 13h.
U, commerçant autrement.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité en Calédonie et l'UGPE veut mobiliser les parents d'élèves, Nicolas Legrand.
Oui, l'Union des groupements des parents d'élèves organise une tournée dans le Nord vendredi pour aller à la rencontre des familles des différents établissements. Ça va durer jusqu'à lundi. Son objectif est de faire peser la voix des parents d'élèves dans les différentes commissions et organes des collèges, des lycées du territoire. Cette année, l'UGPE annonce avoir deux fois plus de représentants que l'année dernière dans les établissements. Écoutez Nicolas Bollo, le président de l'UGPE.
L'objectif pour le GPE, c'est qu'on fasse en sorte que les parents d'élèves s'impliquent un peu mieux et un peu plus dans la vie des établissements. Parce que tous les trois ans, les établissements, ils ont des projets d'établissement. Et cette année, c'est la dernière année du précédent projet d'établissement. Le prochain, il va commencer l'année prochaine, quoi. C'est intéressant qu'ils fassent l'état des lieux cette année avec, pour qu'ils puissent s'impliquer un peu plus sur le prochain projet d'établissement. Voir quels sont leurs déléances, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'ils ont envie d'améliorer. Faire en sorte de s'impliquer un peu plus, quoi.
L'UGPE demande également un moratoire concernant les éventuelles fermetures des collèges de Thio et qu'un audit soit réalisé concernant les résultats scolaires, mais aussi l'insertion professionnelle des anciens élèves avant que les décisions ne soient prises.
Actualité religieuse en cette semaine sainte, et c'est Mgr Riocreux qui était ce matin notre invité à 7h30. Il a été curé de la cathédrale de Nouméa de 1979 à 1986 et il est aujourd'hui évêque émérite. Il est revenu sur le territoire à l'occasion de l'installation du nouvel archevêque de Nouméa, Mgr Soussitino Sionepoé. À cette cérémonie, Mgr Riocreux représentait la conférence des évêques de France à la demande de son président, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, et il était porteur d'un message à destination de l'église de Calédonie. Il connaît Mgr Soussitino Sionepoé et il souligne la continuité qui existe entre le nouvel archevêque de Nouméa et son prédécesseur, Mgr Calvé.
Les deux sont maristes, donc c'est la tradition, et c'est la présence des maristes depuis le début de l'évangélisation du Pacifique, et ça a été mentionné, puisque les premiers missionnaires sont arrivés en 1843, et donc il y a une continuité, et puis surtout, il a une expérience, et le fait qu'il soit lui-même océanien, et qu'il connaisse parfaitement bien le diocèse, mais aussi toute la région, et puis son lien, je dirais maintenant, à renforcer aussi avec l'Église qui est en France, comme l'a dit la conférence épiscopale. Nous sommes prêts à vous aider pour continuer la mission ensemble.
Après avoir été curé de la cathédrale de Nouméa, Mgr Riocreux a été curé à Saint-Ferdinand-des-Ternes, puis recteur de la cathédrale de Paris. Il a aussi été évêque de Pontoise, puis évêque de Basse-Terre en Guadeloupe. Et s'il est aujourd'hui à la retraite, il a la mission d'instruire des procès en béatification.
L'archevêque de Paris, Mgr Ulrich, m'a demandé, comme ça a été demandé à d'autres, de suivre des dossiers de béatification. Et il y a deux dossiers de béatification que je suis avec des auditions, c'est très intéressant. C'est Madame Élisabeth de France, la sœur de Louis XVI, qui, l'histoire le dit, elle a été décapitée en 1794. Et c'était vraiment la sainte femme de Versailles ou de Montreuil, dans les quartiers de Versailles. Et elle est morte, elle a été emportée dans ce mouvement de terreur. Et depuis, on a garder le souvenir de cette femme. Alors on interviewe beaucoup de personnes, et puis la deuxième cause, c'est le père Guérin. C'est un prêtre qui vivait donc la première partie du 20e siècle et qui est mort en 1972. Il y avait 20 évêques et 200 prêtres lorsqu'il est décédé. Ce père Guérin a fondé la JOC, c'est-à-dire la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, entre les deux guerres. Et c'est aussi une très belle figure. Alors il y a d'autres figures, parce que dans le diocèse de Paris, il y a à peu près une vingtaine de causes qui y sont suivies, et on pense aussi, par exemple, à Ozanam, dont on espère la canonisation prochaine.
Évêque émérite, Mgr Riocreux reste très actif. Après la Nouvelle-Calédonie, il partira pour la Nouvelle-Zélande sur les pas de Mgr Pompallier, le premier évêque d'Océanie.
Mgr Pompallier est l'évêque qui a été le premier évêque de la région avec les pères maristes. Il a résidé en Nouvelle-Zélande pendant 30 ans. Il est venu mourir à Paris en 1871 après 30 ans d'évangélisation. Et on avait ramené son corps en Nouvelle-Zélande en 2002. Et depuis, je suis allé très fréquemment en Nouvelle-Zélande. Alors je réponds à l'invitation pour aller à Wellington, Auckland, rencontrer les évêques, rencontrer les Maoris, et puis ensuite repartir. Je dis le tour du monde en 20 jours, puisque je reviendrai par Tahiti.
En attendant, Mgr Riocreux partagera en Nouvelle-Calédonie les célébrations de la Semaine Sainte. Il sera notamment samedi à l'église de l'Espérance pour la Vigile Pascale. Et vous pouvez retrouver cette interview de Mgr Riocreux en audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. Une nouvelle pause à 11h43 avant de voir dans un instant l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Envie d'une pause déjeuner à l'Escale Château Royal ? Du lundi au vendredi, votre restaurant L'Escale vous propose sa nouvelle formule déjeuner comprenant un plat, un dessert, un café ou un thé pour 3900 francs. Trois suggestions vous seront proposées afin de satisfaire vos envies du moment pour un déjeuner gourmand dans un cadre exceptionnel. Réservez dès maintenant au 23 01 30 et retrouvez plus d'infos sur notre page Facebook Château Royal.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actualité en métropole et à l'étranger, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Oui, et les relations entre la France et l'Algérie ne s'arrangent pas. La visite sur place du ministre français des Affaires étrangères n'a visiblement pas permis, il y a quelques jours, le réchauffement espéré. 12 agents consulaires français, principalement des policiers et gendarmes, ont quitté Alger, sommés de rentrer en France par le pouvoir algérien. Le Quai d'Orsay a répliqué en déclarant 12 agents consulaires de l'ambassade d'Algérie à Paris persona non grata. Et Paris a rappelé son ambassadeur à Alger pour consultation. Loin d'un apaisement, on entre donc dans un nouveau rapport de force. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
La diplomatie ayant échoué, Paris opte cette fois pour la méthode forte. La France défendra ses intérêts et continuera d'exiger de l'Algérie qu'elle respecte pleinement ses obligations, écrit l'Élysée dans un communiqué publié ce mardi soir. Jean-Noël Barrot justifie la riposte et évoque des mesures prises dans une stricte logique de réciprocité.
Nous répliquons avec fermeté comme nous l'avions annoncé. Et vous savez, il y a des règles et il faut les respecter. Et même si nous avons des différends, même si les autorités algériennes ont décidé de rompre le dialogue, elles doivent respecter les obligations qui leur incombent.
Au sein du gouvernement, c'est donc la ligne de Bruno Retailleau qui finit par l'emporter. Adepte du rapport de force avec Alger, le ministre de l'Intérieur assume sur CNews une ligne de fermeté.
Depuis le départ, je parle le langage de la fermeté. Cette fermeté, elle est en train d'arriver. Et si jamais l'Algérie choisit l'escalade, eh bien, il faudra que nous accompagnions cette escalade, sans avoir peur.
Reste que cette situation compromet la libération de Boualem Sansal, dont les deux filles demandent, dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron, que le maximum soit fait pour obtenir sa libération.
En métropole, 9 établissements pénitentiaires ont été attaqués ces dernières 48 heures. Tag, début d'incendie et même tir de Kalachnikov contre la prison de Toulon, où s'est rendu le ministre de la Justice. Ces attaques n'ont pas été revendiquées, mais Gérald Darmanin y voit la main des narcotrafiquants, alors que les condamnés les plus dangereux d'entre eux vont être transférés dans des prisons sécurisées.
Ça ressemble furieusement à ce que j'ai connu quand j'étais mis à l'intérieur, c'est-à-dire souvent des gens qui sont payés quelques centaines, quelques milliers d'euros, qui vont remplir des petits contrats pour pouvoir intimider. C'est aussi peut-être qu'on a touché là où ça fait mal et que pour la première fois, la France prend des mesures extrêmement dures contre le narcotrafic dont les narcotrafiquants ont peur et veulent faire reculer l'État.
Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. La République ne reculera pas, a déclaré Gérald Darmanin, qui a annoncé un renforcement de policiers pour protéger les prisons. Toujours au chapitre justice, notez que Pierre Palmade va sortir de prison, condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, pour avoir causé un grave accident de la circulation alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants. Pierre Palmade va quitter la prison de Gradignan, où il est incarcéré depuis 4 mois pour purger sa peine à domicile sous bracelet électronique. Matignon lance la préparation du budget 2026, un énorme chantier puisque le ministre de l'économie a annoncé la nécessité de trouver 40 milliards d'euros d'économies. François Bayrou a réuni la nuit dernière pour nous une conférence sur les finances publiques. Les pistes d'économies ne seront pas annoncées avant 3 mois, mais il s'agissait pour le Premier ministre de préparer les esprits et de faire en sorte de préparer les citoyens français.
Nous avons décidé d'aller plus vite, de prendre les devants, de choisir un calendrier beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus exigeant. Seule une prise de conscience de nos concitoyens, seule la confrontation les yeux ouverts avec la vérité de notre situation peut soutenir une action déterminée.
Ce travail sur le budget 2026 est surveillé de très près par les oppositions parlementaires, notamment le Rassemblement national et LFI, qui menacent de déposer une motion de censure. Dans ce contexte, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a annoncé que la lutte contre la fraude fiscale et sociale avait permis de récupérer 13 milliards d'euros l'an dernier, un chiffre qui pourrait se monter à 15 milliards pour l'année 2026. C'est en tout cas l'objectif affiché. 6 ans, jour pour jour, après l'incendie de Notre-Dame de Paris et 4 mois après sa réouverture, Emmanuel Macron a décoré à l'Élysée une centaine de compagnons qui ont travaillé pendant 5 ans sur le chantier de reconstruction. Un moment émouvant pour beaucoup d'entre eux. Le reportage d'Antoine Bienvaux pour Europe 1.
Sous les dorures de l'Élysée, quelques larmes d'émotion coulent sur les visages des compagnons de Notre-Dame. Très fier en s'approchant du président, Didier Cuiset ne s'imaginait pas un jour vivre un tel moment. Et pourtant...
Monsieur Didier Cuiset, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Une consécration que l'artisan dédie à toute son équipe d'échafaudeurs.
Une grande émotion et puis une fierté pour tous mes hommes, pour tous ceux qui ne sont pas là. Ça fait permettre de connaître notre métier, de connaître nos hommes et ce qu'on est capable de faire.
Une récompense collective, c'est aussi ce que veut retenir Jean-Louis Bidet, charpentier, lui aussi décoré de la Légion d'honneur.
C'est une belle reconnaissance pour les métiers, pour des parcours de vie. Le fait d'avoir une promotion spéciale rattachée à Notre-Dame, c'est la belle histoire.
Un sentiment d'accomplissement collectif aussi pour Rémi Fromont, architecte en chef des monuments historiques, très fier du travail accompli.
Notre-Dame, c'est la France, c'est le cœur de la France qui a été touché avec l'incendie. On a travaillé d'arrache-pied pendant des années et c'est vrai qu'être reconnu comme ça au plus haut niveau de l'État, c'est quelque chose, oui, qui me touche profondément.
Mais tous le concèdent cependant, la plus belle récompense pour eux reste de voir Notre-Dame ressusciter des flammes et plus resplendissante que jamais.
11h50, on va marquer une nouvelle pause dans ce journal. On termine avec l'actualité sportive et le PSG est en demi-finale de la Ligue des champions de football. A tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Samedi 26 avril, de 8h à 13h, foncez au complexe Le 4. Vente flash sur les croquettes pour chiens et chats. Un paquet acheté égale un offert. Vos animaux se régalent et la bande à nounou reçoit 10% des ventes. En plus, tentez votre chance pour gagner un an de croquettes, chiens ou chats. Offre valable uniquement le 26 avril. Plus d'infos sur Facebook Le 4. Le 4, 186 rue Jacques Ekaoué. Faites vos courses autrement.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et on va commencer, Lionel Sabot, par parler football. Avec le coup d'envoi ce matin des quarts de finale, retour de la Ligue des Champions, le PSG était en déplacement sur la pelouse d'Aston Villa.
Un vainqueur au match aller 3-1, les Parisiens ont entamé la rencontre sereinement face à une équipe d'Aston Villa qui est pourtant intraitable à domicile. Les Parisiens ont réalisé la première mi-temps parfaite en inscrivant 2 buts avant la demi-heure de jeu par Hakimi et Mendes. Et même la réduction du score de Tielemans à 10 minutes de la mi-temps n'a pas semblé perturber les Parisiens. Oui, mais voilà, la machine s'est alors grippée et Paris s'est fait peur, très peur, en seconde période, lorsque McGinn a égalisé et lorsque Konsa a donné l'avantage à Aston Villa. Écoutez Ousmane Dembélé, élu homme du match, mais qui a bien conscience que le PSG n'est pas passé très loin de la correctionnelle.
On s'est cru trop beau, à 2-1, on a cru que c'était, qu'on était déjà qualifié, que c'était fini. Mais la Ligue des Champions, c'est comme ça. Tu peux tomber contre des équipes, juste devant leur public, avec un public chaud comme ça. Ils peuvent renverser le match, donc il va falloir être plus exigeant pour les demi-finales.
Les Parisiens auront donc fait une mi-temps sur deux et s'ils sont parvenus à se qualifier pour les demi-finales, c'est aussi grâce à un très grand Donnarumma qui aura été impérial ce matin dans les buts parisiens. Une nouvelle très grosse performance du gardien parisien salué par Marquinhos, le capitaine du PSG.
Les équipes qui sont championnes, ils ont toujours ces sauvetages de gardiens quand il faut. C'est le match de haut niveau. Notre gardien, il est là, ça, il montre encore une fois à Liverpool. Ici, les autres matchs aussi, et je pense que voilà, il prend de plus en plus sa valeur dans notre but. Il montre ce potentiel qu'il a. Et nous, on est contents parce que pour arriver en demi-finale, en finale et être champion, on a vraiment besoin d'un grand gardien et lui, il montre toujours sa valeur.
Et Paris s'incline 3-2, mais assure l'essentiel et jouera bien les demi-finales de la Ligue des Champions. Satisfaction pour Luis Enrique, l'entraîneur du PSG.
La première mi-temps, c'était un moment avec beaucoup de confiance, une chose positive. Mais on doit améliorer beaucoup de choses et encore faire meilleur. Je pense qu'on doit être content. Je voudrais remercier nos supporters qui toujours sont à l'extérieur, à domicile avec nous. Et on est un très bon moment pour nous.
Le PSG en demi-finale qui connaîtra son adversaire demain matin, ce sera soit Arsenal, soit le Real Madrid. Dans l'autre rencontre de la matinée, le Borussia Dortmund recevait le FC Barcelone. Au match aller, les Catalans s'étaient imposés 4-0, mais comme le PSG, le Barça s'est fait peur ce matin en s'inclinant 3-1. Suite et fin de ces quarts de finale, retour de Ligue des Champions demain matin pour nous. À suivre donc Real Madrid-Arsenal. À l'aller, les Gunners s'étaient imposés 3-0. L'autre match verra une confrontation entre l'Inter de Milan et le Bayern Munich. À Allez, les Italiens s'étaient imposés 2-1. Coup d'envoi de ces deux rencontres demain matin à 6h.
Allez, on va parler tennis pour prendre des nouvelles des Français qui sont engagés dans plusieurs tournois ATP 500 en Europe.
Au premier tour du tournoi de Barcelone, Arthur Fils s'est imposé en 2-7 sur l'Espagnol Pablo Correno Busta. Score final 7-6, 6-3. En revanche, Arthur Rindonek s'est incliné devant le Serbe Laszlo Gerg. Après avoir remporté le premier set, le Français s'est effondré pour s'incliner 6-7, 6-1, 6-2. À Munich, c'est également le premier tour du tournoi. Hugo Humbert s'est qualifié pour le deuxième tour après sa victoire 4-6, 6-3 et 6-2 sur le Chilien Nicolas Jarry.
Et puis on va terminer avec quelques mots d'haltérophilie et des Calédoniens qui participaient aux Oceania Junior et à la Pacific Cup Senior. Aux Océania, Warren Sadiman, en moins de 60 kilos, a décroché une très belle médaille d'argent avec 60 kilos, record personnel à l'arraché, et 63 kilos à l'épaulé jeté. Mathis Sacco, en plus de 110 kilos, a lui décroché deux médailles d'argent avec 101 kilos soulevés à l'arraché et 117 records personnels à l'épaulé jeté. Enfin, Henri Aétané, en moins de 71 kilos, a malheureusement dû déclarer forfait en raison d'une blessure à l'épaule. Concernant maintenant la Pacific Cup Senior, en moins de 79 kilos, Sylvain Duclos a réalisé 105 kilos à l'arraché et 140 kilos à l'épaulé jeté. Il est 11h55, c'est la fin de ce journal. Infomax se poursuit avec Thierry jusqu'à 13h, qui sera l'heure du rappel des principaux titres de l'actualité. Bel après-midi à tous.